y a quelque chose de fascinant dans le livre et dans le pouvoir des mots. Je reste devant cela dans un rapport très enfantin. J'écris toujours sur ce que je ne comprends pas. Cette observation, Sylvie Germain la formule l'année qui suit la parution de son premier roman, Le Livre des Nuits. Nous sommes en 1984, son talent est salué par plusieurs prix, dont celui de la ville du Mans. Puis il y a Prague, l'enseignement au lycée français et Jour de colère, sacré prix féminin quelques années plus tard. Au fil de son œuvre, composée de près d'une quarantaine de titres, Sylvie Germain continue sa plongée dans l'intime, celui qui, mis à distance, peut autant réjouir qu'effrayer. L'obscurité et la lumière, comme celle diffusée par intermittence dans son dernier livre, La puissance des ombres, qui a reçu le prix Cabourg, on la retrouve pour le Qu'est-ce qu'il lit du monde des livres.
Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Sylvie Germain.
Bonjour.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans, faites lire. Et puisque vous aimez jouer avec elle, nous allons évoquer ensemble les ombres passées et présentes des lectures qui vous accompagnent. Est-ce que vous avez un premier souvenir de lecture ?
Alors, les tout premiers, c'est les livres qu'on lit dans l'enfance. Et c'est donc les contes de Grimm et d'Andersen. Mais là, ça fait travailler l'imaginaire. En plus, c'est des livres souvent illustrés aussi. Et pour moi, c'était très important, très marquant, le rapport image et texte. Ensuite, on découvre peu à peu ce qu'on appelle vraiment la littérature. Je passe par-dessus les petits livres d'histoire d'enfants qui ne me passionnaient pas trop. Autant j'aimais les contes, autant les livres dits pour les enfants ne me passionnaient pas.
Pourquoi ?
Ça m'ennuyait, des histoires de petites filles. Et j'aurais tendance à faire un saut, je vous dis, du monde, du temps des contes. Ensuite, à la littérature, s'il y a un premier livre qui m'avait un peu marqué, étonné, c'était un livre de Maurice Genevoix. Je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, 12, 13 ans, je ne sais pas. Je ne lisais pas beaucoup. Et quelque chose m'est resté de ce livre, plus du tout de l'intrigue, etc. Mais c'était le fait de la beauté d'une langue et le fait que avec des mots, justement, on pouvait presque provoquer, vous voyez, des images mentales. Et je crois que ça a été le début de l'amour des mots, en fait. Et puis après, il y a les grands textes. Parmi les premiers qui m'est vraiment marqué, c'est Dostoïevski.
Est-ce qu'il y a un personnage littéraire dans lequel vous êtes le plus projeté ?
Non. Dans des ambiances, dans des ensembles, mais je ne peux pas dire projeté. Ou alors presque dans chaque livre qui a été marquant. Mais me projeter vraiment, je ne peux pas dire, c'est plutôt dans une atmosphère, une problématique.
Vous avez un endroit préféré pour lire ?
Alors, souvent on demande ça aux écrivains, je n'ai pas un endroit, que ce soit lire ou écrire. C'est la chose principale, c'est le silence. Voilà, pouvoir se concentrer, et donc que ce soit lire ou écrire, c'est être dans un endroit calme, où on n'est pas dérangé, où on peut se concentrer.
Et justement, est-ce que les mots vous font advenir des sons et des musicalités lorsque vous écrivez ou lorsque vous lisez ?
Alors, oui, dans les deux cas, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis très sensible à... Chez certains auteurs, par exemple Jean Giono, il y a une somptuosité de la langue. Tout à l'heure, je vous parlais de Genevoix, même si j'en ai parlé depuis longtemps. C'est des écrivains dont l'écriture est très, très charnelle, très imagée. Mais il y a aussi, chez plein d'autres écrivains, il y a un rythme, il y a un style. C'est aussi être parfois étonné par, l'usage des mots ou la structure des phrases, la manière de couper un moment alors qu'on s'attend à ce que ça continue. C'est ça qui est intéressant quand on lit ou chez un auteur, c'est qu'on soit aussi surpris, pas seulement par l'histoire, mais aussi par le rythme.
Est-ce qu'il y a est-ce que ça peut être par le rythme, par les adjectifs qui sont utilisés, une description de personnage qui vous a particulièrement marqué dans des livres ?
Là, c'est difficile parce que du coup, quand on parle des livres qu'on a aimés, et en plus, quand on est déjà bien avancé en âge, il y a tellement, vous voyez, c'est une sorte de foule, et on a l'impression qu'ils vont un peu se pousser les uns les autres pour l'un qui va arriver sur le devant de la scène. Je ne sais pas pourquoi, là, je pense à l'idiot Dostoïevski, mais ça ne veut pas dire que je voudrais m'identifier du tout à l'idiot, mais il y a plein d'autres personnages comme ça, mais comme pour les films, qui reviennent, qui vous hantent, mais qui repassent dans l'imagination. Mais là, je ne peux pas vous indiquer, ils sont trop nombreux.
Ils sont trop nombreux, justement, peut-être à se presser à la porte de votre imagination pour vous demander avec quel écrivain, quelle écrivaine, vous pourriez passer une soirée Vous aimeriez passer une soirée pour discuter de lecture et autres ?
Ça, c'est encore autre chose. Passer une soirée avec un écrivain ou une écrivaine, c'est aussi la qualité de la personne. Et cette question, en fait, je ne pense pas à une romancière, mais à Svetlana Alexeyevitch, pour qu'elle parle de sa démarche. Je trouve remarquables les livres qu'elle a écrits et qui sont encore d'une actualité absolument même tragique en ce moment. Et j'aimerais, voilà, si c'est pour quelqu'un qui est contemporain, je pense à cette femme. Sinon, dans le passé, on peut toujours rêver, on aurait aimé rencontrer tel ou tel écrivain. Mais parfois, je pense par exemple à un de mes poètes préférés, Rilke. Mais je ne sais pas si j'aurais eu envie de rencontrer Rilke. Y a des auteurs, ce qu'ils vous donnent par leurs écrits est presque plus que plus grand qu'eux. Et est-ce qu'ils auraient grand-chose à ajouter à ça ? Est-ce qu'on ne risquerait pas d'être déçu de voir la personne ? Je penserais aussi à Bernanos, à Dostoïevski, à Tchekhov. Après, là encore, ils sont nombreux à se présenter à l'esprit. Dans le contemporain, il y en aurait beaucoup d'autres, bien sûr. Mais je pense à cette femme, ou aussi à Ludmila Ulitskaya, ou Olga Tokarczuk. Bon, c'est un peu orienté, un peu orienté à l'Est.
On l'entend. Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre que vous portez au nu, mais qui est plutôt méconnu ?
Alors, je me méfie tout de suite, je vous reprends tout de suite, je n'aime pas l'expression « porter au nu » parce qu'elle est totalement excessive. On peut énormément apprécier, sans porter au nu, il y a quand même peu de choses qu'on porte au nu, elles sont rares, c'est comme les vrais chefs-d'œuvre, mais il y a des livres magnifiques de finesse, de pleine qualité, et il faut en choisir quelques-uns. Alors, ils ne sont pas totalement inconnus, mais ils n'ont pas peut-être la reconnaissance qu'ils mériteraient. La mort d'un petit bourgeois de Franz Werfel. Alors, le titre n'est pas très heureux, mais c'est un très court roman qui est vraiment très, très beau, très fort, extrêmement dépouillé. Et j'ai envie de le conseiller à tous les pères.
Qu'est-ce que ça raconte ?
C'est justement un tout petit bourgeois dans la Vienne du 19e, un peu crève-misère. Il a une femme, une affreuse belle-sœur qui pèse sur leur vie, et surtout, il a un fils qui est handicapé, un peu mental. Et c'est son souci pour ce fils. Et ça va être la manière dont il va lutter pour, quand il va savoir qu'il a une maladie qui est mortelle, et la manière dont il va lutter pour pouvoir dépasser la date. Alors que tous les médecins l'ont condamné, il aurait dû mourir assez vite. Et il lutte, il se décompose pour pouvoir dépasser d'un jour au moins la date qui va permettre que soit honoré le contrat d'assurance qu'il a pris pour pouvoir couvrir son fils. Mais c'est écrit avec une grande économie de moyens, c'est un texte qui est très très beau. Il y a Une nuit sous le pont de pierre de Léo Peyrouz. Et c'est plutôt des nouvelles, mais il y a des choses remarquables dedans. Et puis, je vais encore en signaler un, Les étrangers de Sándor Márai.
Est-ce que ce sont des livres, justement, que vous aimez relire ? Est-ce que vous avez tendance à relire les livres que vous aimez ?
Certains, oui.
Qu'est-ce que ça vous apporte de relire ?
C'est comme quand on revoit un film qu'on a beaucoup aimé. Tout ce qu'on avait oublié, et pas seulement ce qu'on a oublié, mais également, avec le temps, les mésinterprétations qu'on a pu faire ou avoir confondu peut-être avec un autre livre, on a oublié des choses importantes, on a surévalué d'autres. Parfois, on peut être déçu, parfois, au contraire, on retrouve une saveur. C'est ça qui est magnifique.
Vous avez un souvenir en tête d'une relecture ?
Si je relis des textes de Giono, à chaque fois, je suis totalement admirative de la langue, de la somptuosité de la langue.
Est-ce que il y a un livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
La Divine Comédie, toujours pas lu. Il y en a beaucoup d'autres, mais là, je prends exprès un monument, voilà, de la littérature, et je ne me suis toujours pas lancée dans la Divine Comédie.
Qu'est-ce qui vous en retient ?
Je ne sais pas, de la négligence, de la paresse, et puis d'être sans arrêt sollicité par des urgences de choses à lire, parce qu'on est dans des prix littéraires, dans des jurys littéraires.
Y a-t-il un livre récent que vous avez envie de lire ?
Oui, je choisis plutôt de mentionner un livre que j'ai lu récemment, qui n'est pas un roman, C'est un livre de Mathieu Gounel aux éditions Gallimard qui s'appelle « Un ciel de pierre, voyage en Atacama ». Et c'est vraiment un très très beau texte. Cet homme travaille au musée d'histoire naturelle et il est spécialiste des météorites. Et à partir des descriptions et d'évocations qu'il fait des séjours qu'il fait dans ce désert d'Atacama qui est terrible, il va réussir à relier énormément de choses et donc dans une temporalité immense, parce que parler de météorites, c'est une temporalité là qui nous dépasse complètement, mais aussi il évoque des tribus disparues qui ont été évidemment éliminées par les colons et également les restes des petits fragments d'os qu'on peut trouver épars du temps de Pinochet. Et c'est vraiment un très beau texte.
Est-ce qu'il y a un livre dont vous aimeriez écrire la suite ?
Alors, un livre dont j'aimerais écrire la suite, il y en a peut-être beaucoup, mais je mentionnerai juste une très brève nouvelle de Kafka qui s'appelle « Le sceau à charbon » ou selon les traductions « Le cavalier au sceau ».
C'est une nouvelle que vous avez lue quand ?
Oh, il y a très longtemps que j'ai recherché là, mais que j'ai évoqué d'ailleurs dans un livre déjà ancien, parce qu'elle m'avait marqué, il y a quelque chose de... c'est Kafka, il y a quelque chose qui est à la fois complètement irréaliste et qui pointe quelque chose de tellement profond et de tellement réel.
Vous nous en auriez un extrait ?
Oui. Plus de charbon, le seau vide. Il me faut du charbon. Je ne peux tout de même pas geler. Derrière moi, le poêle sans pitié, tout comme le ciel devant moi. Je dois donc chevaucher juste entre les deux et aller chercher de l'aide chez le charbonnier. Mais il est déjà endurci contre mes demandes répétées. Il faut que je puisse le prouver que je n'ai plus une seule petite poussière de charbon et que pour cette raison, il est pour moi tout simplement l'égal du soleil dans le firmament. Je dois aller vers lui comme le mendiant en train de mourir de faim, menaçant de crever sur le pas de la porte. Le vendeur en colère, mais agissant sous le rayon du commandement « Tu ne tueras point », doit me jeter une pleine pelletée dans le seau. Mon arrivée déjà doit être décisive. C'est pourquoi je monte sur le seau à charbon. Cavalier au seau à charbon, la main levée, tenant lance, je pivote dans la descente de l'escalier. Mais en bas, mon seau à charbon s'élève. Superbe, superbe. Les chameaux couchés au niveau du sol, se secouant sous le bâton de leur maître, ne sont pas plus beaux lorsqu'ils se dressent. Trop réguliers à travers la rue gelée. Et je flotte exceptionnellement haut lorsque j'arrive devant la cave voûtée du vendeur. « Charbonnier !» Ma voix s'élève, rendue caverneuse par le froid, tandis que je suis enveloppée par la buée de mon haleine. « Je t'en prie, charbonnier, donne-moi un peu de charbon. Mon seau est déjà tellement vide que je peux m'en servir de monture. Sois bon, je te paierai quand je pourrai. » Le charbonnier met sa main en cornet derrière l'oreille. « Est-ce que j'entends bien ?» demande-t-il par-dessus l'épaule de sa femme en train de tricoter sur la bangue du poêle. « Est-ce que j'entends bien ? Il s'agit d'un client. « Je n'entends rien du tout, dit la femme, respirant tranquillement au-dessus de ses aiguilles à tricoter, le dos agréablement chauffé par le poêle. « Oui, c'est bien ça, dis-je, un vieux client, toujours fidèle, juste dépourvu de ressources en ce moment. « Femme, dit le charbonnier, il y a quelqu'un. » Je ne peux pas me tromper à ce point. Il doit s'agir d'un vieux, d'un très vieux client, car il sait me parler droit au cœur. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » dit la femme. « Il n'y a personne, la rue est vide. » Alors, des larmes cruelles, causées par le froid, me voilant les yeux, je m'écrie. « Mais je suis ici, assis sur mon seau. Levez donc les yeux, je vous prie. Vous me verrez tout de suite. J'aimerais que vous me donniez une petite pelletée. Et si vous m'en donnez deux, alors je serai plus qu'heureux. » « J'arrive, dit le charbonnier, prêt à monter l'escalier, mais sa femme est déjà auprès de lui, le retenant par un bras. « Tu restes ici. Si tu ne renonces pas à ce caprice, c'est moi qui monte à ta place. « Alors, dis-lui toutes les variétés de charbon que nous avons en stock. « D'accord, dit la femme, et elle monte jusque dans la rue. « Naturellement, elle me voit aussitôt. « Madame la charbonnière, je vous salue bien respectueusement. « Juste une pelletée de charbon, ici, tout de suite, dans le seau. « Je le porte moi-même à la maison. Une pelletée du plus mauvais charbon, je vous paye la totalité, mais pas tout de suite, pas tout de suite. » Quel son de cloche sont ces quatre mots ? Pas tout de suite. Et, comme mêlé à l'angélus provenant au même moment d'une église voisine, il provoque la confusion. « Que veut-il donc ? » demande le charbonnier. « Rien, rien, lui répond la femme. Ce n'est rien, je ne vois rien, je n'entends rien. C'est 6 heures qui sonnent et nous fermons. Il fait terriblement froid. Elle ne voit rien et n'entend rien. Mais pourtant, elle dénoue le ruban de son tablier et essaie de me chasser avec. Ça réussit, hélas. Mon seau a toutes les qualités d'une bonne monture, mais il n'a pas la force de résister. Il est trop léger et un tablier de femme le fait s'élever dans les airs. Alors qu'elle se tourne vers sa boutique, à moitié méprisante et satisfaite, elle frappe en l'air d'un geste de la main. J'ai encore le temps de lancer. Comme tu es cruelle, comme tu es cruelle. Je t'ai demandé une pelletée de ton plus mauvais charbon et tu ne me l'as pas donnée. Et sur ces mots, je m'élève dans les régions des montagnes glacées et je me perds dans le pays d'où on ne vous revoit jamais.
Quelle est la suite que vous imaginez ?
Je ne me l'imagine pas encore parce que, en fait, je ne m'y mettrai pas. Mais je ne sais pas pourquoi cette nouvelle, parmi tant d'autres d'ailleurs, de Kafka, à chaque fois m'émeut profondément. Cette image est à la fois très belle, elle est risible et elle est tragique. Mais ça, c'est Kafka. Effectivement, lui, il disait que quand il lisait ses textes à Max Brod et à ses amis, il était plié de rire. Et il y a quelque chose qui aide, il y a quelque chose de risible, d'un rire infiniment triste, et on a l'impression de l'entendre justement résonner dans ce ciel glacé. Ben, la suite, essayer de s'imaginer le voyage dans un ciel glacé, dans un ciel blanc, le voyage sur ce seau à... Parce que peut-être c'est l'idée qui vole finalement. Au lieu que ce soit sur un balai, à mon avis, c'est plus confortable de voler dans le ciel, peut-être sur un seau à charbon, que sur un balai de sorcière, je ne sais pas. C'est une nouvelle qui me trouble et me touche beaucoup.
Merci Sylvie Germain.
Merci à vous.
Votre dernier livre, La puissance des ombres, est paru aux éditions Albin Michel. Retrouvez tous les épisodes du podcast Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.